Lizzie présente La ferme des Neschoff de Anne B. Ragdeux. Traduit du norvégien par Jean Renaud, lu par Ludmila Ruoso. Elle n'avait pas l'habitude de se réveiller si tôt. Elle resta allongée dans l'obscurité de la chambre, les yeux grands ouverts, et écouta. D'abord la sonnerie opiniâtre du réveil, interrompue aussitôt. Il avait dû attendre qu'elle se déclenche. Elle savait qu'il était 6h30. Puis le silence fut complet pendant une petite minute, jusqu'à ce qu'elle entende la porte s'ouvrir doucement et se refermer tout aussi doucement, et peu après celle de la salle de bain. Il savait qu'il avait du monde à la maison et ne voulait pas faire de bruit. Car ce devait être ainsi qu'il les considérait, non? Des étrangers qui, au fond, n'étaient pas chez eux ici, qui le dérangeaient et se mêlaient de ses affaires, perturbaient une année de banale routine et de sécurité. Elle ne connaissait pas son père. En fait, elle ne savait pas qui il était, à quoi il ressemblait quand il était enfant, adolescent ou à son âge à elle. Il n'y avait pas un seul album de photos à la ferme. C'était une histoire dont elle n'avait jamais fait partie et au beau milieu de laquelle elle se trouvait soudain plongée. Mais aujourd'hui, elle allait repartir et se reconnecter à sa propre histoire. C'était à cela qu'elle pensait, au fait qu'elle repartirait sans avoir appris à le connaître. De lui, elle n'avait que l'image de l'éleveur de porc, celui qui prenait plaisir à s'enfermer dans la porcherie, celui dont la voix vibrait et chantait lorsqu'il évoquait les diverses particularités des truies, les bêtises que les porcelets pouvaient faire, les généreuses portées et les courbes de croissance. Elle l'avait vu dans la porcherie, là où il était lui-même, vêtu de sa combinaison dégoûtante, penché au-dessus des loges pour gratter une cochette de 250 kilos derrière les oreilles, souriant largement à la bête, le regard léger et clair. Elle l'entendit pisser droit dans la cuvette des water. Il était incapable de faire autrement, malgré la présence inhabituelle d'autant d'invités endormis. Elle écouta tomber les dernières gouttes, l'entendit tirer la chasse. Elle n'entendit pas ensuite l'eau couler dans le lavabo, mais seulement la porte s'ouvrir à nouveau et se refermer avant qu'il ne descende lentement l'escalier et entre dans la cuisine. Là, elle l'entendit verser de l'eau dans la bouilloire à café, sans doute sur le vieux marc de la veille. Puis tout redevint silencieux. Et dans ce silence, elle fit l'intense effort de se représenter son appartement à Oslo. Les posters sur les murs, les livres sur les rayonnages, la petite coupelle en verre pleine de sel de bain bleu posée sur le lavabo, l'aspirateur dans le placard bien trop étroit du couloir, le répondeur qui clignotait quand elle rentrait du boulot, le panier de linge sale, la pile de vieux journaux juste derrière la porte d'entrée, la vieille boîte en fer blanc qu'elle veillait toujours à remplir de pain craquant, le tableau d'affichage en liège où étaient épinglés des tickets de cinéma déchirés et des photos de chiens et de leurs maîtres. Elle s'efforça de tout se représenter. Elle y parvint et s'en réjouit. Mais elle ignorait qui il était. Elle ignorait qui elle quittait. Elle connaissait ses porcs mieux que lui. Il y eut le bruit de la porte d'entrée et de ses pas sous la pentille. Elle chercha à tâtons son portable sur la table de chevet et appuya sur une touche. Il était 7h10. Mais elle attendit que la porte de la porcherie claque derrière lui avant de bondir hors de la couette dans la chambre glaciale, d'attraper ses vêtements et de se rendre dans la salle de bain pour s'habiller. Tout comme lui, elle marcha à pas feutrés, mais rapide comme l'éclair, et non de son allure d'homme âgé. Dans la salle de bain, elle sentit de vagues relents de son odeur. La pièce était froide. La seule chaleur provenait d'un petit radiateur rayonnant tout rouillé, fixé au mur au-dessus du miroir. Elle examina son visage tout en se lavant les mains. Elle n'avait pas le courage de prendre une douche. Elle attendrait d'être de retour chez elle, où elle n'aurait pas à se tenir debout dans une baignoire glissante, les yeux fixés sur les carreaux de formica aux joints gonflés d'humidité, pour ensuite se sécher avec une serviette que l'usure avait rendue transparente. Ce soir, elle serait dans sa bonne vieille salle d'eau, avec cabine de douche et sol chauffé. Elle ressortit dans le couloir et prêta l'oreille, avant de tourner la poignée de la porte de la chambre de son père. La pièce était plus grande que celle qu'elle occupait et qui, en réalité, était l'ancienne chambre d'Erland. Elle alluma le plafonnier. Il ne s'en apercevrait pas. La fenêtre ne donnait pas sur la cour, mais sur le fjord, comme la sienne. Des murs peints en vert clair des décennies plus tôt. Le plancher avait jadis été gris, mais la peinture avait complètement disparu devant la porte et à côté du lit, là où ses pieds, à force de se poser au lever et au coucher, avaient fait apparaître une demi-lune de bois brut. Les vitres étaient couvertes de fleurs de givre, d'un blanc éclatant sur fond de matin hivernal, formant des cercles et des motifs bien découpés. Seules les fleurs de givre étaient belles dans cette chambre. Aucun cadre. Un lit, une table de chevet, un tapis en lirette, un buffet adossé à l'un des murs. Elle s'en approcha et ouvrit les portes, vides. Ce n'était qu'un simple meuble contre un mur. Mais le tiroir du haut contenait quelques napperons au crochet, empilés les uns sur les autres, aux motifs absolument identiques, mais de couleurs différentes, en coton brillant. Elle commença à avoir froid. Sans doute n'avait-il refermé la fenêtre qu'en se levant. Sous la couette relevée, le drap était sale. Surtout au niveau des pieds, avec de petites peluches de laine, ça et là. Peut-être gardait-il ses chaussettes pour dormir. Que faisait-elle ici, au fond? Ce n'était pas là qu'elle apprendrait à le connaître. C'était sa pièce de repos, dans laquelle il n'était personne. On n'est personne quand on se repose ou que l'on dort. Mais combien de soirs avait-il dû s'allonger là, à scruter l'obscurité et à réfléchir? Avait-il pensé à elle? Lui avait-elle manqué? Avait-il regretté de ne pas savoir qui elle était, elle? La chambre était imprégnée d'une odeur forte et entêtante de corps humain, de porcherie et de murs froids. Il y avait une penderie. Elle était encastrée dans le mur et difficile à voir au premier coup d'œil. Les boutons pour l'ouvrir étaient minuscules. Quelques chemises de flanelle aux cols et manchettes effilochées, un pantalon tout au fond, une étagère de chaussettes et de caleçons, pas plus de 3 ou 4 de chaque, une cravate enveloppée sous plastique. Elle la souleva et remarqua une carte de Noël jaunie, reçue des abattoirs Aitsmo. Elle la reposa soigneusement à la même place. Elle s'arrêta pour écouter, mais il ne revenait évidemment pas. Pourquoi serait-il revenu? Il était bien trop occupé à la porcherie, tandis qu'elle parcourait sa chambre sans savoir ce qu'elle cherchait. À chacun de ses regards, elle sentait la tristesse l'envahir, la désolation. Chez elle, elle avait un lit d'1,20 m, surmonté d'un épais matelas. Son père en avait un dont la largeur ne dépassait guère 80 cm, et il couchait sur de la mousse. Il y avait un grand creux au milieu, là où le drap était tout plissé. La tête et le pied du lit étaient en teck brillant. Une zone plus claire à la tête du lit indiquait qu'il avait l'habitude de s'y appuyer depuis des années avant d'éteindre la lampe de chevet. Et aujourd'hui, elle allait partir, à 500 km de tout cela, alors que dès le soir venu, il se recoucherait dans ce même lit. Il s'y recoucherait encore quantité de fois, mettrait le réveil à sonner et essaierait de trouver le sommeil, derrière ses fleurs de givre. Elle ouvrit le tiroir de la table de chevet. La photo d'un petit cochon lui apparut. C'était une brochure de l'Association des éleveurs de porcs norvégiens. Elle la souleva. Dessous, il y avait 20 billets de 1000 couronnes. C'était donc là qu'il les cachait. Sous les billets, il y avait un livre. Elle s'en saisit avec précaution. Le rapport Kinsey. Le comportement sexuel de la femme. Elle s'immobilisa l'ouvrage entre les mains. Le rapport Kinsey. Elle se souvenait vaguement avoir entendu parler dans une émission de radio de ce Kinsey qui, il y avait une éternité de cela, interrogeait les Américains et les Américaines sur leurs habitudes sexuelles. Apparemment, cela avait fait du bruit aux États-Unis. Le livre était usé à force d'avoir été lu. Les pages en étaient cornées. Elle voulut passer le pouce pour le feuilleter à l'envers, mais son doigt s'arrêta aussitôt sous la jaquette. Elle ouvrit le livre et vit le tampon « Bibliothèque populaire de Trondheim ». Une ancienne fiche de prêt jaunie était glissée dans l'étroite pochette prévue à cet effet. Le genre de fiche qu'utilisait, elle se rappelait très bien, la bibliothèque de son quartier quand elle était enfant. Elle la retira. Le livre aurait dû être rendu au plus tard le 10 novembre 1969. Elle s'empressa de replacer le livre sous les billets de 1000. Le rapport Kinsey et un matelas en mousse de 80 tout au plus. Elle sortit de la chambre et ferma la porte derrière elle.